Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli.
La Coupe du Monde est lancée, on va vous la faire vivre évidemment tous les soirs. Toutes les nuits de la Coupe du Monde sont à suivre sur RMC. On vous rappelle que du 11 juin au 19 juillet, vous connaîtrez tout évidemment. Toutes les coulisses de cette Coupe du Monde, vous suivrez tous les matchs. Et on est ensemble au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Ils sont là en pleine forme. En direct de New York, Walid Acherchour et Maxime Chano. Messieurs, on a parlé des premiers matchs donc de cette journée. On vous le rappelle que dans un peu moins d'une heure, maintenant dans une demi-heure, coup d'envoi de Corée du Sud, République Tchèque, comptant pour la première journée de compétition. Et le Mexique a réussi son entrée en lice dans ce mondial, dans son mondial, avec ce succès 2-0 face à l'Afrique du Sud. On va s'intéresser évidemment à l'équipe de France, les Bleus en quête d'une troisième étoile, la dernière compétition avec Didier Deschamps à la tête de cette équipe de France. Et on va retrouver Valentin Germain. Alors c'est exceptionnel quand même, parce que Valentin Germain, il y a quelques minutes, il était au Mexique avec nous. Et bien là, il est en direct de Boston. Valentin, ça va toujours bien? Le voyage s'est bien passé?
Tout va toujours très bien. J'ai ma Corée et ma République tchèque sur le bout des doigts. Et maintenant, je me suis focalisé sur l'équipe de France. Donc, c'est magnifique.
Magnifique. Tu vas tout nous dire de l'équipe de France, évidemment, en lice pour une troisième étoile avec un statut de favori comme d'autres nations. Et tu vas nous raconter un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est d'ailleurs donc le premier jour d'entraînement pour les Bleus. On rappelle qu'ils sont arrivés mercredi sur le sol américain à Boston. Hier, c'était un petit décrassage tranquille. Et là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet.
Oui, hier, il y a eu récupération, activation musculaire, on nous a dit, pour faire tourner les jambes, mais avec le décalage horaire et l'arrivée en fin d'après-midi, on n'a pas fait sortir les joueurs qui, ce matin, se sont réveillés tranquillement, ont eu des activités obligatoires avec la FIFA, hein, les shootings photos, pour les opérations commerciales, pour les animations dans les stades, donc ça, c'était ce matin, ensuite déjeuner, et donc l'entraînement pour cette équipe de France qui, pour la première fois, s'est rendue à la Bentley University, qui est à 20 km, une demi-heure de trajet depuis l'hôtel qui est dans le centre de Boston. Donc là, on est un petit peu plus au vert. Donc les Bleus ont découvert cette université qui est vide, hein. Il n'y a plus d'étudiants parce que là, c'est l'été. Ils ont été diplômés avec 4 terrains. Les Bleus vont se servir de deux, notamment un de baseball où ils vont faire un petit peu les échauffements, tout ce qui va être un peu plus musculaire ou un peu plus léger. Et puis il y a un terrain qui a été mis en place exclusivement pour le soccer. C'est très université américaine, hein, Maxime connaît peut-être.
Ouais, ça me rappelle mes années football, en effet.
Ouais. Non, mais c'est vrai, tout est mis en place pour le sport là, donc il y a de quoi faire de l'athlétisme. Il y a une grande piste d'athlétisme autour de ce terrain. Il y a de quoi faire du lancer de poids également. Bref, on va se concentrer sur le soccer pour les Bleus. On a changé la pelouse du côté de la Bentley
voilà,
University.
La pelouse, elle est nickel, ils sont contents les Bleus, parce qu'on sait qu'il y a des soucis parfois.
Pour l'instant, elle est très bien, mais l'université, franchement, a beaucoup travaillé là ces deux derniers mois parce que la France a demandé une pelouse, j'allais dire, un peu particulière, sans rentrer dans les détails, mais qui se rapprochait le plus possible du Gillette Stadium de Foxborough, donc le stade à Boston. Et donc, on a dû changer, bichonner, tondre la pelouse du côté des jardiniers jusqu'à la veille de l'arrivée des Bleus. On a dû également tracer des lignes de soccer parce que le terrain ne servait pas à ça. Donc, il y a des normes FIFA aussi sur la taille à respecter, etc. Mais tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, pour les Bleus, l'environnement est assez sympathique. Il y a beaucoup d'arbres aussi autour. Il y a quelques logements étudiants avec de la brique rouge. Donc, c'est assez vaste, mais ça reste assez chaleureux. Et donc, le premier entraînement a eu lieu en plein après-midi pour l'équipe de France, en plein cagnard, pour tout vous dire. 32 degrés, beaucoup d'humidité. Et ça va être un paramètre à prendre en compte parce que les Bleus vont peut-être ces prochains jours souffrir de la chaleur.
Alors, justement, comment les Bleus ont réagi à cette première journée? À New York et à Boston, c'est très important pour les Bleus. Il fait très humide, il fait lourd. C'est quand même compliqué de respirer. Ils vont devoir jouer un match, et un match très important et déjà ô combien compliqué face aux Sénégalais. Ils ont plutôt été bons dans ce premier exercice.
Oui. Oui, oui, la gestion, en fait, elle a été anticipée, bien évidemment, par le staff. Donc, déjà, les entraînements, là, cette semaine, vont majoritairement, et d'ici mardi, face au Sénégal, avoir lieu à 15h, 15h30, parce que le match contre le Sénégal, il est à 15h, heure locale. Donc, l'idée, c'est de s'acclimater et de s'habituer à la chaleur. On a demandé à Brice Samba, qui nous a dit qu'évidemment, on les avait sensibilisés sur le fait de bien s'hydrater. Mais surtout, il y a eu une réunion exclusivement sur ça, ces dernières heures, pour expliquer aux garçons combien de litres, aux joueurs, combien de litres d'eau, par exemple, ils devait boire, comment bien s'hydrater, comment ne pas perdre trop d'énergie, un petit peu toutes les précautions à prendre, parce qu'en plus de la chaleur, il y a l'humidité, hein, Maxime, tu connais ça aussi, mais on est aux alentours de 60%, je pense, donc on perd beaucoup d'eau, en fait, en faisant rien.
C'est important de faire comprendre à nos auditeurs qu'il fait chaud, mais c'est une première chose, mais surtout, il fait très, très humide. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes efforts lorsqu'il y a énormément d'humidité, comme c'est le cas actuellement à Boston ou même aux États-Unis. Et d'où les pauses fraîcheurs, en fait. On les a critiquées, mais là, pour le coup, elles vont être super utiles. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand tu cours comme ça sous beaucoup d'humidité, que tu perds énormément d'eau, et ça peut être vraiment préjudiciable pour, évidemment, pour la performance. Moi, je me rappelle quand je jouais en Floride avec New York City ou avec Los Angeles, qu'il fallait presque s'arrêter toutes les quarts d'heure pour boire parce que sinon, t'étais pris de crampes. Donc voilà, encore une fois, c'est aussi l'adaptation des joueurs. Je pense que le staff de l'équipe de France est bien au courant de ça. C'est aussi la raison pour laquelle ils sont venus au mois de mars ici faire la tournée aux États-Unis. Mais ça va être encore différent entre le mois de mars où il faisait encore relativement bon. Là, c'est vrai que aux États-Unis, mais bon, ça va être la même chose pour les deux équipes, pour toutes les équipes. Et c'est vrai que c'est un facteur à prendre en considération.
Certains ont eu la Coupe du Monde
aux États-Unis pendant l'été.
C'est ce qu'ils nous disaient certains avec la Coupe du Monde des clubs l'été dernier, se rapprochent plus des conditions. Mais c'est particulier. Ouais. Ils vont y être très très attentifs et ce sera un sujet à guetter ces prochaines heures évidemment.
Et pour terminer par rapport à la Coupe du Monde des clubs, le gros problème qu'on avait eu, c'était les pelouses. Et c'est important que t'en parles. La problématique de l'organisation ils avaient tout simplement mis de l'herbe sur le synthétique. Donc à chaque fois qu'on tacle, ils préfèrent l'herbe sauter, le synthétique apparaissait. Enfin, c'était vraiment je t'en parle pas, c'était vraiment pas facile pour les appuis et surtout pour avoir de la qualité sur ces matchs-là. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que les États-Unis ont eu un an finalement pour préparer cette nouvelle compétition, en l'occurrence cette Coupe du Monde. Et j'espère sincèrement que tout ce qu'on a eu comme problème là l'été dernier, c'est qu'un mauvais souvenir et que les joueurs vont pouvoir être absolument focus sur le terrain, parce que c'est vrai que quand t'es joueur et que t'as envie de jouer ce genre de compétition, t'as envie d'avoir l'environnement parfait. Et évidemment, je pense qu'aujourd'hui, avec cette équipe de France et justement le staff qui sait gérer tout ça, je pense qu'on va avoir une grande équipe de France au rendez-vous.
Alors Valentin, il y a plusieurs questions qui se posaient. Il y avait effectivement donc l'idée de la chaleur. Il y a aussi les distances qui peuvent poser problème aux US. Comment ça s'est passé là pour les Bleus? On a trouvé un petit peu long le trajet visiblement, c'est ça?
Alors ça reste, c'est correct. Hein. Après les Bleus ont fait le choix de se mettre en plein centre-ville. Honnêtement, c'est à côté d'un parc à Boston. On n'est pas très loin de nous, donc on est vraiment en plein cœur de la ville. Et donc je vous le disais, c'est à une vingtaine de kilomètres. Donc ça dépend déjà de l'heure à laquelle on part. Il peut y avoir quelques bouchons. Les Bleus ont une escorte policière, mais escorte en gros aux États-Unis, de ce que j'ai compris, là encore Maxime tu me diras, mais c'est assez réglementé, on peut pas faire n'importe quoi, rouler à toute allure, etc. Donc il y a une escorte, mais il y a quand même un certain temps. On nous a dit une grosse demi-heure pour arriver au centre d'entraînement, donc rien de bien grave, mais c'est vrai qu'il faut pas que ça prenne beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs la fédération, le staff a bousculé un petit peu le programme de demain, puisque il devait y avoir conférence de presse à 10h30, entraînement à 15h en public, et finalement on a rapproché la conférence de presse de l'entraînement, on l'a mis à 14h parce qu'on a estimé que niveau circulation ce serait plus simple, notamment pour amener les joueurs, et qu'aussi sûrement que ça évite un aller-retour et que ces joueurs concernés par la conférence de presse ne passeront pas 2 heures dans les transports. Donc on est encore un peu dans l'adaptation, il n'y a pas de sujet grave, hein, mais il y a encore des petites choses peut-être à peaufiner dans l'organisation parce qu'on est en plein centre-ville ici.
Et là où je te rejoins, alors on ne va pas créer une polémique là où est-ce qu'il ne devrait pas en avoir, mais c'est vrai que d'avoir choisi cet hôtel en plein centre-ville de Boston, je trouvais ça un peu surprenant parce qu'on le sait, aux États-Unis tout est très loin, et tu l'as très justement dit, les temps évidemment de trajet sont supérieurs que ce que tu connais en Europe. Mais c'est vrai que connaissant Didier Deschamps et le staff en règle générale, d'avoir choisi cet hôtel au milieu de la ville avec le trafic, je me pose quand même des questions.
C'était peut-être pas le meilleur choix. Un mot justement aussi, Valentin, parce que moi je suis assez surprise des images que l'on voit, notamment grâce à vous qui êtes reporter en direct de Boston. C'est la folie. J'ai l'impression que c'est des rockstars, les Français, lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, lorsqu'ils sortent de l'hôtel. Donc, qui sont ces gens qui sont présents devant l'hôtel des Bleus depuis leur arrivée?
Alors pour le coup, c'était vraiment à l'arrivée des Bleus. C'est vrai qu'il y avait 200-300 personnes, beaucoup de gens qui étaient venus pour voir Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, qui ont crié. Aujourd'hui, il y avait quand même moins de monde devant l'université, on était plutôt sur une dizaine de personnes, donc ça va peut-être s'atténuer un petit peu. Qui sont ces gens? Alors Florent Germain et Arthur Perrault notamment, qui étaient de très très près puisqu'ils étaient vraiment quasiment dans le hall, ont vu pas mal d'expatriés ou de Français qui sont en vacances, de passage, etc., et qui voulaient voir les Bleus. Il y a aussi des fans de soccer américains, et il y a également, moi j'en ai vu ce matin, des supporters écossais. Et oui, parce que l'Écosse va jouer après-demain contre Haïti ici même, et honnêtement, ils sont très très nombreux en ville et eux, ils aiment le foot, donc ils sont venus voir. Il y a un petit peu un mix de tout ça, pas mal de Français, quelques curieux américains, mais qui connaissent les superstars françaises plutôt, et puis des fans de foot qui viennent peut-être de l'étranger pour voir du foot et qui vont venir comme des curieux voir l'Hôtel des Bleus.
Pour avoir marché à Manhattan, Karine, de ce matin, il y avait énormément de maillots écossais. Je suis d'accord avec toi, j'ai été très très surpris.
Ah aussi. Alors que pourtant, il y en a aussi qui ont été refoulés. On rappelle, hein, il y a eu des problèmes d'Esta qui ont été annulés au dernier moment. On avait pu lire ça sur rmcsport.fr. Mais bon, on sait que les Écossais se déplacent toujours en nombre. Walid, le côté rockstar des Bleus.
Bah oui, bah c'est plutôt
logique. T'étais surpris ?
Non, c'est logique. Moi, je trouve que c'est logique. Quand même, il y a des à qui Kylian Mbappé a toujours eu cette cette affiliation avec les États-Unis, ça a été naturel depuis le début. Il a fait beaucoup de d'OP publicitaire sur les dernières années. Le Paris Saint-Germain, je pense, moi, avec la Coupe du Monde des clubs l'année dernière où ils ont fait finale, dégage quand même une sympathie. Et puis l'équipe de France, ça reste l'équipe de France. Sur les dernières années, ils ont fait finale 2022, ils ont gagné en 2018. S'il y a bien quand même une sélection qui normalement est arrivée dans le salon de certains Américains, c'est quand même l'équipe de France. Donc non, pas surpris.
Et puis il faut pas aussi oublier justement le poids extra-sportif qu'ont ces joueurs. Hein. T'as parlé de Kylian Mbappé. Enfin, c'est presque aujourd'hui, ils ont un point de vue marketing, on va dire qu'honnêtement, c'est les Français, star, ouais, hein. c'est les numéros un. Hein. C'est les numéros un. Donc je peux comprendre en tout cas moi cet engouement autour de cette équipe de France. Et puis ça prouve aussi la portée justement du football actuel aux États-Unis. Voilà, donc on a la chance en tout cas d'avoir ce genre de joueurs.
C'est le premier match. Ce sera pas le premier match au MetLife Stadium. Il y aura Brésil-Maroc avant.
D'accord. Oui.
Ok.
Mais la France commencera sa compétition au MetLife Stadium avec ce France-Sénégal. On le rappelle, ça sera le 16 juin. Nous avons une star également qui est avec nous. Un petit peu plus loin. Elle n'est pas à Boston. Elle n'est pas à New York avec nous. Elle est à Mexico. C'est Jean-Louis Tour qui commente évidemment les Bleus, qui nous entendait parler de l'effervescence autour de Kylian Mbappé et qui avait envie d'être avec nous, bien sûr. Ça va, Jean-Louis ?
Oui, salut Karine, salut tout le monde. Ah non, c'était pour vous parler de la photo au Mexique, là.
Ben oui, mais c'est très bien. T'es où ? C'est sur la place de la Constitution, c'est ça ? Où es-tu ?
Non, alors je suis pas loin de la place de l'ange de l'indépendance. Où en fait les Mexicains ont l'habitude. En fait, je me demandais après le match si les Mexicains allaient fêter cette victoire comme une grande victoire en Coupe du Monde et donc se rassembler dans cette fameuse place, un peu comme les Champs-Élysées pour nous, où ils vont fêter les grandes victoires. Et ben, je peux te dire qu'ils y étaient. Ils y étaient très vite après le match, sous des trombes d'eau. Donc ça signifie vraiment quelque chose qui s'est passé. Et donc ça, c'était tout à l'heure, donc juste après le match. Et là, je suis dans les rues, toujours dans le centre, un peu dans la partie nord. Et je peux te dire qu'à chaque coin de rue, c'est la folie. Ça chante, ça klaxonne, ça continue de débattre autour du match et de faire la fête. Et je pense, là, il est pas loin de 20h, heure du Mexique, qu'il va y avoir une grande nuit de fête pour tous les Mexicains qui ne galvaudent pas du tout cette victoire. Pour eux, c'est un truc vraiment important qui s'est passé.
Moi, j'aime bien ça. Moi, je le disais tout à l'heure, mais de voir le Mexique démarrer cette compétition, qui est un vrai pays de foot, contrairement au Canada, et quand même, il y a quand même une vraie
culture foot.
Oui, mais c'est pas le même niveau.
Mais en tout cas, des trois, c'est quand même le Mexique qui a vraiment un appétit et une histoire pour ce sport. Je suis content moi que Jean-Louis nous rappelle ça, qu'on voit ces images là, cette cérémonie d'ouverture et ce match contre l'Afrique du Sud. Je trouve que ça envoie quand même un bon signal par rapport à tout ce qu'on a entendu, notamment ici avec la NBA et tout le tralala. Je suis content moi.
Il faut pas oublier aussi que c'est une force hein, évidemment hein, de recevoir la compétition. Et là, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut qu'ils arrivent à capitaliser justement un petit peu sur l'engouement qu'a le Mexique et les Mexicains en règle générale pour le football, et je suis d'accord avec toi, c'est très très bien en tout cas que les Mexicains commencent avec cette victoire.
Alors que c'est le vrai pays de foot dans les trois, on le rappelle, mais ils ont eu cette cérémonie d'ouverture. C'est vrai que Jean-Louis, on a senti qu'il y avait une immense fierté, ils l'ont beaucoup répété, c'est la troisième Coupe du Monde qu'ils accueillent, le Mexique est un pays de foot, et on l'a vu avec ce stade Azteca qui est un monument évidemment pour tous les amoureux du foot, et cet après-midi c'était absolument incroyable, les images qu'on avait de ce stade qui était tout vert, qui était plein, les gens qui sont aussi aux couleurs du Mexique depuis plusieurs jours. Ils attendaient le lancement de cette compétition.
Ouais, alors je mets quand même un bémol. Tout ce que vous dites, c'est vrai, bien sûr. C'est un pays de foot. Et franchement, moi, j'ai pris une vraie claque au moment d'approcher du stade, de voir toute cette marée verte. C'était vraiment exceptionnel. Tous les gens qui étaient au taquet, tout l'avant-match, ils ont mis une ambiance folle. Le début du match aussi. Franchement, j'ai eu des frissons. C'était d'être dans le stade à ce moment-là, c'était exceptionnel. Je mets un bémol quand même. C'est pendant le match. Il n'y a pas eu non plus pendant le match le maintien de cette pression en permanence, et je pense que c'est dû, et c'est le gros bémol de cette Coupe du Monde partie mexicaine, à cause du prix des places. Je pense qu'on n'avait pas des supporters venus des classes très populaires qui garnissent les stades toute l'année et qui supportent leur club. Du coup, on a eu un public un peu plus aisé. Vu le prix des places, c'est normal aussi. Ils ont quand même réussi à remplir 80 000 personnes, mais ça a donné une ambiance que je m'attendais un peu plus le feu tout au long de la rencontre, et on a eu un truc un peu plus calme finalement.
Mais c'est ce genre de scénario, on va le voir, je pense, aussi sur pas mal de matchs, hein, tu l'as dit. Aujourd'hui, le prix des places, ça va être une vraie problématique, en tout cas pour beaucoup de personnes, hein. Là, moi, je regardais les places de l'équipe de France, le prix, enfin, je me mets à la place du supporter de foot lambda, je vois pas qui peut être en mesure de pouvoir acheter.
T'auras pas d'ultra.
Ah ouais, non, c'est sûr, ça, je pense qu'il faut qu'on s'y habitue, ouais, à ce genre de scénario.
Ouais. C'est un peu le problème. Ouais. On en a parlé de la grille tarifaire.
C'est dommage que ça casse un peu le champ.
Ça ouvre 2-3 tiroirs, c'est vrai, parce que surtout que.
Et surtout quand je vois l'ambiance qui est mise dans les rues là ce soir, je me dis que si tous les gens qu'on croise dans la rue là, on les avait mis au stade tout à l'heure, ça aurait été une vraie folie.
On est très très loin de la Coupe du Monde populaire, ça c'est une réalité.
Ah bah là, oui, c'était prévisible en tout cas. Ouais.
Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir été avec nous pour nous donner un petit peu l'ambiance au Mexique après cette. Entrée en lice réussie, on le rappelle, avec ce succès 2-0. Vous le savez qu'il y a ce deuxième match au Mexique qui va commencer dans un quart d'heure. Corée du Sud, République Tchèque, ça c'est à Guadalajara. Et on peut voir également dans les tribunes qu'il y a aussi des Mexicains, hein, donc, parce que les Mexicains, même s'ils n'ont pas pu forcément avoir des places pour le match de leur équipe, ils ont envie de participer à la fête et ils se sont déplacés à Guadalajara. On est toujours évidemment avec Valentin Germain également en direct de Boston, qui nous donne des nouvelles des Bleus. Valentin, on l'a dit, c'était le premier jour d'entraînement pour l'équipe de France. Pas de bobo, tout le monde va bien?
Tout le monde était là, les 26, notamment William Saliba, Jules Koundé, tout le monde a commencé l'entraînement. Il y avait un quart d'heure ouvert aux médias. Donc du côté du staff, ce qu'on nous fait passer comme signal, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude sur les joueurs, même si avec le voyage, la chaleur, les matchs amicaux, certains ont peut-être des petites gênes, des petits pépins. Donc Adrien Rabiot et William Saliba, par exemple, n'ont pas participé à une partie de certains exercices et ont plutôt couru à côté. Mais honnêtement, il n'y a aucune alerte à avoir et on est plus sur de la précaution. Donc la bonne nouvelle pour Didier Deschamps, c'est que pour l'instant tout le groupe est là, tout le groupe répond. On verra comment chacun réagit éventuellement à la chaleur, mais tout le monde était là sur la séance d'une heure et tout le monde devrait être là également demain. Ce sera en public, donc là on verra aussi à qui on aura affaire, notamment des jeunes qui pourront voir l'heure d'entraînement qui a été ouverte par la Fédé, la FIFA, et donc ça devrait nous donner des images aussi un petit peu sympas et avec des supporters un peu plus proches justement des joueurs.
Et il y a eu également une petite zone mixte d'organiser avec deux joueurs, hein, Lacroix le défenseur et Brice Samba le gardien. Rien de transcendant dans leurs propos, pas de nouvelles polémiques. Voilà, on est resté très classique langue de bois.
On les sent contents de l'accueil, en tout cas, de comment ils sont hébergés. Brice Samba nous a parlé de l'accueil dans la chambre d'hôtel, les petits cadeaux qu'il pourra donner aux enfants. Ils ont été aussi impressionnés par le côté très vaste de cette université. Tous les deux, ils nous ont dit naturellement, c'est très grand. Donc il y a eu ces questions-là. Il y a eu la question de la chaleur aussi. Brice Samba n'a pas été alarmiste, on en a déjà parlé, mais il a dit que tout le monde avait bien reçu les conseils. Donc on sent quand même de l'excitation. Maxence Lacroix nous a dit, à chaque fois, c'est un petit peu la même phrase, mais voilà, là, ça lance un peu le mondial aussi, encore un peu plus, parce que tu t'entraînes sur le camp d'université que tu es censé avoir pendant quasiment un mois, donc c'est encore une étape de plus vers l'entrée en lice, et peut-être que ça commence aussi un peu à être long dans les têtes, donc ils ont envie de se lancer. Bon, on les a sentis assez positifs et assez contents de l'accueil et d'être là.
Merci beaucoup Valentin, on te retrouve dans moins d'un quart d'heure pour le coup d'envoi de Corée du Sud.
Change de casquette.
Tchèque. Exactement, tu retournes au Mexique pour nous faire vivre donc ce deuxième match de la compétition.